tu peux te présenter un petit peu
Me présenter, du coup, voilà. Je travaille dans l'art depuis 20 ans. J'ai pas dit que j'étais artiste. Interprète des signes entre l'extérieur et l'intérieur. Enfin bref. Mais comment je peux me présenter? Voilà, je fais plusieurs choses. Je suis à l'intersection de plusieurs luttes, je crois. Je sais pas si je dis lutte, mais en tout cas intéressée par plein de choses. Et voilà, pour le moment, c'est comment je pourrais me présenter.
Et est-ce que tu as toujours su que tu étais adoptée, toi?
Ouais. Alors moi, je l'ai su, toujours su. Donc en fait, dans ma famille, on est quatre. Donc je vais essayer de pas trop parler pour mes frères et sœurs, mais juste pour présenter. On est quatre frères et sœurs, on est une fratrie. Et on est quatre enfants qui ont été adoptés. Donc j'ai deux grands frères et une sœur. Et en fait, on est d'origine différente, tous les quatre.
Ok.
Voilà.
Mais tous d'Afrique ou
Non. Okay. En fait, nous, on a tous... Donc, c'est... on a des origines inconnues. Alors, j'ai un frère qui avait fait des recherches parce qu'à un moment donné, en France, tu pouvais ouvrir ton dossier et je sais plus entre quelles et quelles années... ça avait été possible, puis après ça n'a plus été, mais donc il a pu avoir accès à ses origines. Je pense qu'il a même poussé la recherche assez loin. Il a rencontré quelqu'un de sa famille, je dirais pas sa famille d'origine, parce que je questionne aussi ce terme, qu'est-ce que c'est qu'une famille, qu'est-ce que c'est que les origines. Mais en tout cas, il a rencontré un des membres de la personne qui l'a mis au monde. Et puis, bon, ben, tu vois, voilà, c'était, je pense que c'était très, très dur. C'était très, très dur, je pense, en plus que... Enfin, je ne sais pas trop peut-être parler de ce que c'est ces trucs à lui, mais c'était très, très dur, très violent. Donc, voilà. Mais j'ai toujours su, ouais.
Et tu as été adoptée toute petite?
Alors, ma sœur et moi, on a été adoptées à 3 mois. Frère était adopté un peu plus... Un de mes frères, c'était un peu plus grand. Puis il a eu cette chose terrible qu'il a été adopté une première fois et puis remis à l'orphelinat. Et ma sœur et moi, on était... c'est assez lourd parce qu'on a été... on était très, très mal soignés. Donc, on était mourantes, en fait, quand on a été adoptées. Et on est issus du trafic d'êtres humains. Donc, en fait, on a essayé de nous vendre quand on a été adoptés. Donc, on a... Enfin, c'est vraiment... Enfin, j'ai même pas envie de tout raconter parce qu'il y a des trucs que je vais garder parce que c'est vraiment, vraiment trash. Bien sûr. Et mais en tout cas, il y avait vraiment un truc de... Donc, ma mère a fait un procès, etc. Mais il y a eu cette question d'accélérer la procédure en demandant de l'argent, voilà. Et on était vraiment... Ouais, on était très malades, toutes les deux. Parce qu'on était, en fait, dans le même lit, en fait, toutes les deux.
Ah ouais?
Ouais.
Et c'est comme ça que votre mère vous a adopté?
Oui.
En même temps, quoi.
Oui, parce que le mythe... parce que je trouve qu'autour de l'adoption, il y a plein de mythologies, en fait. Il y a toujours... Enfin, je dis mythologie, peut-être que le terme n'est pas exact. Mais je suis désolée parce que je vais utiliser plein de termes où je serai toujours en train de les mettre en question parce que je les cherche, tu vois. Mais en fait, il y a toujours ces récits. Par exemple, nous, donc c'était pas un orphelinat, c'était ce qu'on appelle une pouponnière. Ben, y avait des récits qui étaient fabriqués pour chaque enfant, qui étaient des récits mensongers, en fait. Par la suite, c'est pour satisfaire la curiosité des parents. Avoir quelque chose sous la dent, pouvoir raconter...
Générer encore plus d'empathie, de compassion. Voilà.
Et puis aussi, peut-être éviter que les enfants ne veuillent rechercher à un moment donné ce qui s'est passé. Donc, tu vois, donc nous, on avait un récit très caricatural qui nous avait été accolé à nos histoires. Et du coup, un autre récit, c'était que ma mère devait normalement adopter qu'un seul enfant. Et en fait, on était deux et elle a pris les deux enfants. Donc tout ça aussi, c'est des récits qui sont... C'est assez compliqué Enfin, c'est des récits qui sont... Il faut s'en défaire, quoi, à un moment donné, quoi.
Et la pouponnière se trouvait en en Europe, enfin...
Ouais, c'était en France, alors tu vois, je sais même pas où c'était. Là, j'essaye de retrouver les papiers du... Enfin, j'essaye d'avoir des traces du procès, tout ça. J'aimerais beaucoup savoir, en fait, ce qui s'est passé. Moi, le problème que j'ai, c'est qu'il y a énormément de zones d'ombre au niveau de mon adoption, comme c'est une adoption sous X. J'ai recontacté à deux reprises l'institution qui se charge de tout ça et qui peut accueillir des demandes d'enfants nés sous X qui désireraient en savoir un peu plus. Donc normalement, c'est un organisme qui peut accueillir ces demandes. Moi, visiblement, ils peuvent rien faire, rien dire. Ils ont, voilà, ils sont en possession de rien. Ils n'ont pas de... mais donc du coup il y a plein de zones d'ombre en fait, donc il y a plein de trucs que je sais pas, donc je sais pas où était cette pouponnière, j'ai pas de traces du procès, enfin bref, il y a plein de trucs, tu vois, je sais pas, la maternité où je suis née n'existe plus, enfin tu vois, tous des trucs, tu fais ouh là, donc voilà.
Et du coup en n'ayant pas accès à ton dossier, tu ne peux même pas savoir de quel pays ou de quelle origine?
Je peux rien savoir, j'ai dû faire un test on appelle ça un test ADN.
ADN.
Voilà. Mmh. Mais qui est un peu... tu vois, ça, je pense que ces tests-là, ils ont été développés avec... enfin, surtout aux États-Unis, parce qu'il y avait toute une population afro-américaine qui avait besoin de savoir. Et donc, du coup, c'est des tests qui sont développés surtout là-bas. Donc, en fait, on envoie un échantillon de cheveux ou de salive là-bas. Et en fait, c'est des... ils se basent... sur leur recherche, en fait, tu vois, donc ça veut dire que c'est sur leur base de données, j'ai envie de dire.
Oui, c'est ça, pas forcément de l'Europe ou...
C'est ça, oui. Donc du coup, ben voilà, moi je suis originaire du Nigeria et du Kenya, mais voilà, le Nigeria c'est énorme, le Kenya c'est énorme, enfin, je veux dire, c'est, ça te donne, ça te cartographie, mais c'est trop peu, tu vois, ça dit pas les déplacements, ça dit pas, il y a plein de choses que ça dit pas, quoi, plein de choses que ça dit pas.
Mais est-ce que le fait de dire, ah oui, mettre quand même un nom d'un pays,
ouais,
ça aide quand même à dire, mais je sais pas, enfin...
Oui, c'est sûr, moi à un moment donné ça m'a aidé, parce que j'en avais marre de... Parce que moi je mentais tout, enfin je mentais pas, je disais ma vérité c'était qu'à un moment donné j'avais pas forcément envie... de toujours raconter toute mon histoire. Et en fait, ça, je m'en suis rendu compte quand j'étais un peu plus jeune. À l'école, une fois, c'est quand on me demandait, mais d'où tu viens? Donc, je sortais toute l'histoire, je disais, ah, mais en fait, tu sais, je sais pas, etc. Puis quelqu'un m'a dit, ah, tiens, c'est marrant parce qu'on se parle depuis 5 minutes. Et en fait, en 5 minutes, je connais énormément de choses de toi. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, il faut pas que je donne tout ça. Donc, j'inventais des destinations qui me plaisaient, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'avais quand même besoin de savoir où c'était à peu près, quoi.
Ouais.
Parce que ça me dispersait très fort, quoi. Et donc j'avais besoin. Et après, c'était intéressant de le savoir, même si c'était de continuer à être perdu, mais d'avoir quand même dans cette. Parce que j'ai l'impression que je flotte, tu vois, comme ça. Et dans ce flottement, d'avoir quand même juste un mini petit potentiel de nomination d'un territoire. Et en plus, c'est un territoire, voilà, dans lequel on se perd. Mais ça me permet d'avoir un peu de tranquillité, ouais. Quelque part. Et surtout pour mon fils, je pense que c'était important à un moment donné. Il avait besoin, quoi. C'était trop grand, quoi, pour lui. Il avait vraiment besoin. Donc pour mon fils, c'était bien. Aussi. Qu'il ait pu parler en nous, qu'il ait pu dire, ah, mais j'ai envie d'aller au Nigeria. Enfin, tu vois qu'il est...
Ouais.
Tout d'un coup, il a pu se construire aussi plein de... Se projeter, se développer plein de fantasmes par rapport à ces petits points-là, en fait. Dans cet océan d'inconnus. Qui ne cesse de s'agrandir, d'ailleurs. Parce que tout d'un coup, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des choses où tout d'un coup, tu dis, ah bah ça, je ne le saurais peut-être jamais. Donc, il faut maintenant faire rentrer le jamais dans son histoire, quoi. Mais donc voilà.
Bah, d'office que ça me renvoie à moi, ou même j'ai plein de... Tu vois, cette question de d'où tu viens,
ouais.
Quand tu connais déjà d'où tu viens, c'est relou, parce que t'es juste assigné au fait que tu sois noir et tout ça, mais du coup, ça a une autre symbolique et une autre forme. Enfin, double peine en fait de quand on te pose cette question
Ça, c'est sûr.
Enfin tu vois, et que je me dis mais c'est tellement destructeur du coup cette question. Parce que bah déjà de base parce que t'es non blanc et tout ça on te pose on te renvoie toujours au fait que tu ne viens pas d'ici et qu'on te demande toujours d'où tu viens même si mais qu'en plus si tu ne sais vraiment pas c'est toujours te rappeler
que
et que enfin voilà ça me touche et ce qui me touche aussi c'est le fait que tu dises que tu flottes, t'es comme un fantôme errant et que enfin moi en tout cas je ressens que tant que je n'ai pas fait ce retour là c'est pour ça que j'ai ce besoin là c'est parce que j'ai besoin de m'ancrer en fait et que j'ai besoin de m'extraire de cette mémoire floue traumatique d'un passé que je ne connais pas ou plus en tout cas et que en fait oui c'est ça c'est important de savoir d'où on vient pour la construction et que mais après est-ce que quand on parle de ça est-ce que l'endroit d'où on vient c'est forcément je sais pas comment dire ça c'est complexe en fait comme
Oui. Moi, c'est pour ça que je me rattache, par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup sauvée, c'est, entre guillemets, je ne sais pas aussi comment l'appeler, mais la culture créole et tout ce que ça a pu amener en termes d'invention de personnes qui étaient, enfin, je ne sais pas moi, toute la pensée archipélique, tout ça, tout ce qui est ces identités qui sont émiettées et qui doivent s'inventer du commun, qui doivent s'inventer de la culture. Moi, tout ça, c'est des trucs qui me parlent à fond. Parce que tout d'un coup, à partir de... Parfois, cette histoire personnelle de flottaison peut se retrouver dans l'histoire de peuple, tu vois. Et j'ai eu la possibilité d'aller... Parce que j'accompagnais mon ami sur un spectacle et j'ai eu la possibilité d'aller en Guadeloupe. Et déjà, ça m'avait déjà, quand j'étais ado, j'avais 14 ans, j'avais lu Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, et ça m'avait déjà sauvé la vie, en fait. Ça m'avait sauvé la vie parce que je trouve qu'il parlait, déjà, il parlait de manière extrêmement abstraite, et donc c'était pas des termes qu'on utilise quand on connaît vraiment, quand on a la certitude de ses origines, etc. Mmh. C'était vraiment déjà quelque chose de. Et donc, ça, je trouvais ça. Je trouvais ça super que une telle abstraction soit aussi concrète. Et puis après, d'aller vraiment fouiller dans cette culture de la reconstitution, en fait, qui est vraiment dans la mémoire, dans un travail de mémoire, de reconstitution, d'invention, de multitude, en fait. Moi, tout d'un coup, j'ai fait mes racines là, en fait, dans cette culture-là, qui pour moi est une culture qui est au milieu de l'océan, qui est éparpillée. Qu'il n'y a pas une racine unique, en fait, c'est de la multitude. Et tout d'un coup, d'avoir des mots, de pouvoir organiser un discours, de pouvoir organiser des fictions autour de ça, moi, ça m'a vraiment sauvé la vie, quoi. Alors, je me rappelle, j'ai eu la chance, je ne sais pas qui, à cette époque, c'était en 95, qui a eu ce génie d'inscrire ce livre au programme du bac. Il y avait donc Cahier d'un retour au pays natal et Discours sur le colonialisme, qui est quand même quelque chose de... Enfin, qui est énorme, quoi. Ça a été retiré dès l'année suivante par, sous pression des parents d'élèves qui trouvaient discours sur le colonialisme trop violent. Mais en fait, voilà, moi, ça m'a beaucoup aidé, cette notion de multitude, en fait. Tout ce qui est la pensée de multitude, je me suis beaucoup accrochée à ça, en fait. Et aussi, je pense que ce qui a fait origine pour moi, origine avec un S, c'est aussi tous mes amis... qui étaient dans des identités doubles, triples, et qui avaient un endroit où ils vivaient, alors que la famille venait d'ailleurs, et qui retournaient parfois en vacances, et qu'ils se sentaient qu'en vacances, c'était pas vraiment... Et qui étaient aussi entre deux eaux, quoi. Et donc, ils se retrouvaient aussi, comme moi, les pieds, le corps dans l'eau, tout dans l'eau, quoi. Tout était... Et ça m'a beaucoup... quand j'ai conscientisé ça, ça m'a beaucoup fait bouée de sauvetage, en fait.
Et du coup, toi, t'as jamais... Enfin... le déni de ton histoire, t'as essayé de ne pas aller là-dedans.
Ah oui, j'ai eu ça très très longtemps parce que oui. J'ai eu ça super longtemps parce que c'était pas que c'était tabou, c'est que c'était ultra douloureux d'en parler à ma mère par exemple, qui a été que c'était très douloureux. On pouvait pas Parce que je trouve que ce qui est très, très compliqué dans l'adoption, c'est que les parents sont pas... Enfin, j'imagine que ça n'est toujours pas aujourd'hui, accompagnés. Ni accompagnés sur les enfants. Je dirais pas qu'ils accueillent, en fait. Parce que c'est pas eux qui accueillent, c'est nous qui les accueillons. Et... tu vois, et ça, c'est un truc... j'entends encore aujourd'hui très, beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais moi, j'ai envie d'adopter pour sauver... » Enfin, mais non, pour moi, c'est les enfants qui t'accueillent, c'est les enfants... Et en fait, des fois, c'est des charges tellement lourdes. Tu as la charge de remplir un foyer, tu as la charge de... Et c'est marrant comme on fait peser sur l'enfant autre chose. C'est « Ah non, moi, je vais le sauver. » Tu fais « Mais non, c'est pas ça qui se passe, c'est l'inverse, en fait. Enfin, c'est autre chose. » Et en fait, donc, c'était ultra douloureux, donc on pouvait... C'était compliqué d'en parler, en fait. Alors moi, ça m'a toujours travaillé en souterrain. Après, il y a un moment donné où j'ai dû... surtout quand j'étais jeune, je pouvais pas toujours revenir à ça, parce que sinon, ça me tuait, en fait. Mm-hmm. Donc il y a un truc où je pense qu'on doit élaborer des stratégies pour se dire, ok, je dois m'accommoder de cette situation pour survivre, en fait, ne serait-ce qu'un bon bout de temps, parce que sinon, je vais me... Comment on dit ça, s'auto, tu sais, conditionner, bah, là, on se
s'autodétruit,
on se de l'intérieur, oui. S'autodétruit.
De toute façon, beaucoup d'adoptés, et que même moi je le ressentais, que on est une bombe à retardement, quoi.
Ouais, complètement.
Et que en fait, c'est pas moi, je sens là que je dois le faire, parce que sinon je vais mourir, quoi.
Bien sûr.
Et ça, c'est évident, je sais même c'est pas vrai. Et que en fait, justement, ce poids qu'on a sur les épaules, enfin, et aussi, enfin, moi je remets beaucoup en question, je me pose beaucoup la question, mais ça veut dire quoi adopter, en fait?
Oui,
c'est quoi déjà, ouais. ça je remets fortement en question ce mot adoption.
Ouais, moi aussi, complètement.
Parce que pour moi, l'adoption, c'est un consentement, et qu'il y a un endroit comme ça que moi, en tant qu'adoptée, ayant vécu la situation que j'ai vécue, ben non, en fait. Enfin, ou alors ça prend du temps, mais ouais, c'est ça. C'est toute cette charge d'accompagnement qui est plus que nécessaire pour que le mot adoption soit des deux parts.
Complètement, ouais, bah, tout à fait.
Et que voilà, et que franchement, ça tourne en boucle, le mot adoption, et je crois que tout le monde doit adoption, adopter. Ouais. On adopte un chien, on adopte un gosse pour le sauver. Enfin, voilà. Ouais. Je crois que ce mot adoption me met en colère, en fait.
Ouais, moi, c'est pareil. Puis après, moi, il y a aussi un autre... quelque chose qui était très douloureux, c'était la dimension de l'insulte. Parce que... la dimension de l'insulte et du rejet. Et je trouve que dans l'adoption... C'est très bizarre parce que c'est autant un acte d'accueil qu'un acte de rejet. J'ai l'impression que ça mêle des choses qui sont très contradictoires. Et par exemple, moi je sais que j'ai été adoptée dans des années où par exemple ça paraissait faire famille de manière entre guillemets sans que ce soit biologique. Enfin, tu vois, on parlait de femme, de mère biologique ou tout ça, machin. Tout d'un coup, c'était contre nature pour les gens, tu vois. Ils comprenaient pas. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui les... Tu sais, ça me faisait un peu penser à la famille pour tous, tu vois. Un truc... Tu sentais que c'était ultra compliqué pour eux de comprendre qu'il y avait plein de manières différentes de faire famille qui n'impliquaient pas des liens du sang, tu vois. Mm-hmm. Donc, il y avait cette violence-là. Puis après, il y avait la violence de la couleur. Et donc, d'arriver dans une petite ville, d'être à l'école maternelle ou... En maternelle, ça allait encore, je ne sais pas par quel miracle. Mais en primaire, en collège, j'ai morflé, mais j'ai vécu un racisme systémique, mais un truc de malade, en fait. Mais vraiment, je pense que c'était un truc... Je sais même pas comment j'ai fait, tu vois, pour traverser ça. Puis en plus, ma sœur était est plus claire que moi. Et donc, j'ai vécu aussi cette différence de, tu vois, comme je m'éloignais... J'étais vraiment celle qui était la plus loin, en fait, de la norme, en fait. Et donc, c'est quelque chose... Je réfléchis beaucoup à ce statut de l'insulte. Le statut de la difficulté d'accueillir réellement. La notion d'hospitalité inconditionnelle, par exemple, c'est quelque chose qui m'intéresse très fort. Et comment on peut fabriquer des espaces où les gens sont tranquilles. Comment on peut pacifier des espaces, en fait. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai... malgré moi, entretenue. C'est-à-dire que j'ai toujours eu, j'ai l'impression, dans mon environnement, des gens qui étaient, qui m'insultaient ou qui étaient... Donc c'est très bizarre parce que j'ai toujours, vraiment malgré moi, maintenu cette chose-là où je me retrouvais minoritaire, où je me retrouvais pas à la bonne place, où... Je pense qu'aujourd'hui, je commence à... Mais avec l'aide d'autres, je commence à pouvoir me dire que j'ai le droit d'avoir une place et que j'ai aussi le droit qu'on me foute la paix. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a... Et c'est marrant parce que je les ai rencontrés quand même très tard, mais j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Lai Senra Ninja et Stéphie Mizrahi, qui sont deux pionnières de la culture ballroom, donc qui font du voguing. Et en fait, c'est des personnes qui m'ont énormément, sans qu'elles le sachent, enfin, je pense qu'elles le savent, mais je pense qu'elles savent qu'elles aident beaucoup de gens, mais qui m'ont beaucoup aidée, parce que ce que j'ai trouvé très beau, c'est que pour moi, c'est une communauté qui a créé une culture en se sortant de la survie, en fait, pour survivre, a dû recréer quelque chose. Créer une famille qui sorte de la famille qu'on nous impose. En fait, je trouve que ce que j'ai adoré, c'est qu'il y avait un tel potentiel de création, de dire « Ah, ok, ça, vous dites que c'est pas possible. Mmh. » Eh ben, de cet impossible, on va le transformer et faire force de ça et faire fierté de ça. Mmh. Et je pense que ça, en tout cas, de les avoir rencontrés, ça a beaucoup réparé beaucoup de choses, en tout cas. Mmh. Parce que je trouve que c'est, en tant qu'enfant pris dans ces situations-là, je trouve qu'on est déjà ultra fragile, ultra sensible. Et je trouve que il y a quelque chose qui est tellement dur tout autour, qui broie complètement toute cette hypersensibilité. Moi, j'hallucine, en fait, du manque de plein de choses dans la cellule familiale, autour de... En fait, c'est des accueils, des rencontres qui se manient avec un tel tact. Et je trouve que c'est tellement pas ce qui se passe que c'est pour ça que je te rejoins tellement quand tu dis oui, ce mot adopté, j'ai du mal même avec ça, et aussi ce mot de consentement. Dire qu'à aucun moment on te demande, tu n'existes pas, quoi. Et c'est pour ça que cette notion de fantôme, parce que moi je trouve que ce qui m'a beaucoup touchée dans cette adoption, c'est aussi la notion du petit bébé qui est dans le ventre et de l'existence que tu as. Ça, c'est un ami qui m'a fait réaliser ça, qui s'appelle Milo Slayers. Il m'a fait découvrir un philosophe qui s'appelle Emmanuel Ecocha, qui parle de avant notre naissance, tu vois, qu'on est avant notre naissance. Et que moi, je sais bien que je remonte de bien avant le ventre de ma mère, on va dire le ventre de ma mère. Je remonte bien avant ça, tu vois. Et donc, par exemple, moi j'ai déjà entendu des trucs mais hallucinants comme « Ah, mais toi ça va, t'as été adoptée à 3 mois, donc ça va, c'est encore petit. » Des trucs aussi bêtes que ça, quoi. Parce que en fait, ce que je trouve, c'est que t'es dans des situations où tout petit, t'es confronté à cette violence-là de la bêtise, en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a flinguée. Et en fait, du coup, cette chose-là, je me dis, moi je voudrais faire valoir le droit des bébés qui sont dans les ventres, qui sont même avant, en fait, on entend, on existe, attention, hein, je suis pour l'avortement. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas du tout pro-vie tout ça. Ce que je veux dire, c'est que je parle d'autre chose. Je veux dire que c'était pas possible de dire on coupe ton histoire et on colle une autre histoire. C'est pas vrai.
Mais oui.
C'est pas vrai, en fait. Je veux avoir connaissance de mes arrières, de mon arrière, de l'arrière-pays. Je veux savoir ce qui se passe, en fait, parce que c'est complètement dans le présent aussi. Et c'est pas possible de dire, non, maintenant, on coupe. Comment on coupe? Tu sais, les trucs avant, les films, on coupait avec un gros ciseau pour faire du montage, en fait. Et on faisait, ah, oh, mais là, on va couper. Et moi, j'ai l'impression qu'on a fait, on a coupé, on a laissé mourir le reste. On fait, non, c'est pas grave. Donc, pareil, on décide. Il y a des sensations que j'ai eues quand j'étais toute petite, je veux dire, ce laps de 3 mois, je le sens, en fait, en moi. C'est-à-dire que je sens des goûts. Il y a des goûts que je reconnais. Il y a des... Par exemple, j'aime quand il y a beaucoup de monde. Ou alors, je suis très sensible à la communauté. Et parce que, tu vois, je me suis rendu compte que j'ai passé 3 mois de mon existence dans une pouponnière et il me semble que les bébés ont dû communiquer entre eux, en fait. On se parle, en fait. On s'envoie des signaux. On de tenir le coup, je crois. qu'on est conscient, qu'il faut consciente, conscient, qu'il faut que... Et donc, moi, j'ai ce truc-là de... Je sais qu'on peut survivre, mais avec, grâce à la communauté. Par exemple, d'être sensible à ça, de se dire, tiens, c'est quoi les stratégies de survie de ces petits dans ces situations-là? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il se passe des milliards de choses, en fait. Donc, d'arriver et de dire, non, il ne s'est rien passé, à partir du moment où c'est autre chose, c'est juste, pour moi, si tu veux détruire quelqu'un, fais ça, quoi. C'est impossible. Non seulement c'est impossible, mais c'est malhonnête.
Oui.
Et ça me fait vraiment penser, tu sais, à ces questions entre guillemets identitaires où on disait oui, mais voilà, vos ancêtres, les Gaulois, et tu fais mais non.
Mais en fait, on nous oblige constamment à rentrer dans un. Enfin,
mais avec une violence.
Mais d'où ouais. L'arrachement identitaire, en fait, qui est que. T'es un mois, trois jours, ça commence bien avant ta naissance. Enfin, je veux dire, il y a une langue qui est créée, il y a la nourriture que ta mère mange.
Les gens parlaient autour de toi.
Les gens parlaient.
Je sais que les gens parlaient. Et puis, il y a aussi la violence. Je sais et je le sens que ça a dû être violent. Donc, moi, je crois, parce qu'il y a la mythologie qu'on s'invente aussi soi. Moi, je me suis toujours inventée où j'ai ressenti, enfin, une invention qui vient d'un ressenti, que c'était... une grossesse douloureuse, en tout cas qui devait se cacher, parce que j'ai des enfin il y a un truc comme ça avec fallait cacher quelque chose. En tout cas c'est ce que je me raconte et c'est ce que mon corps a parfois un peu intégré. Peut-être qu'il faudrait que je puisse déconstruire cette histoire là, mais alors ce qui est très compliqué c'est que tu dis ah ouais mais si je me déconstruis cette histoire là, le problème c'est que j'en ai des milliards d'autres que je pourrais réinventer et auxquelles je pourrais m'accrocher. Donc mais par exemple moi les langues qui étaient parlées autour obligé. Moi, ça me terrorise quand on parle que le français, par exemple. Ça me stresse, ça me panique. Ça me panique quand il y a une seule chose. La monoculture, ça me panique complètement, mais vraiment complètement.
Bah surtout la culture qui t'a été imposée et pas qu'on t'a dit tu peux la choisir.
Et ce que j'aime pas, c'est qu'on me dit que c'est une culture d'accueil. C'est pas une culture d'accueil.
Non.
Pour moi, même pour moi, cette culture, c'est une culture qui ne sait pas accueillir, justement. Qui ne sait pas accueillir, qui ne sait pas ce que c'est qu'accueillir. Qui ne sait pas ce que c'est qu'accueillir. Vraiment. Et ça, j'en suis convaincue. Et qui devrait se laisser enseigner ça. Parce que je pense que d'autres cultures ont des éléments de proposition de qu'est-ce que c'est que l'accueil en termes d'écoute. Mais l'accueil égalitaire, en fait. J'accueille parce que j'ai la possibilité, quelqu'un me donne la possibilité d'être accueilli. Tu vois, et c'est pour ça quand on parle de ce. Est-ce que j'ai pu en parler ou quoi? C'est que je pense que ce qui est très compliqué, c'est qu'à un moment donné, pour être accueilli, tu donnes à l'autre la possibilité d'être accueilli. Donc moi, j'ai dû me mettre en mineur, quoi. Et donc mettre en silence. Et donc pour moi, la possibilité d'être accueilli, c'est la possibilité de dire des choses qui vont déplaire, ou des contre-attentes, dire, en fait, moi, j'ai pas envie d'être ici. Oui, moi, j'ai envie d'aller, de comprendre d'où je viens, même si le système de l'adoption sous X, c'est un système où on dit non, tu peux pas. Ben non, moi, j'ai besoin, j'ai envie, j'ai nécessité. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment de l'accueil. C'est d'entendre ça, quoi. Et c'est marrant parce qu'on est en train de... aussi d'être dans une autre mythologie où on dit que les choses avancent. Moi, j'ai l'impression que ça... Je suis toujours empêtrée dans cette question-là d'une culture qui ne sait pas accueillir, quoi. Mais qui ne le sait pas, tu vois.
Bah oui, du coup, ça questionne le fait que même encore aujourd'hui, que ça fait 26 ans que je suis adoptée, je ne me sens toujours pas accueillie. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à passer à ma tongue, parce qu'on va... Enfin, c'est aussi ça, c'est de me dire, en fait, quand on m'inclut dans une catégorie. Enfin, ouais. Je comprends, il y a quelque chose comme ça où je ne suis pas en terre paisible.
Non.
Et ça, même avec le temps, quoi. Mm-hmm. Je crois que la terre paisible que je dois essayer de trouver, c'est pas le continent, c'est pas...
Oui.
C'est l'intérieur,
bien
c'est
sûr.
Mon pays intérieur.
Bien
et
sûr.
Que je crois que c'est là que moi, je vais me sentir OK et légitime.
Exactement.
Et pour moi, je crois que c'est notre seule arme. Enfin, c'est ma seule arme, parce que si j'attends que l'extérieur me considère comme la personne non raciste à côté, je crois que je peux encore attendre longtemps.
Ouais.
Et donc, il faut que je trouve ma légitimité intérieure. Et
je crois que c'est
pour ça que ce travail de reconnaissance et se reconnaître, c'est trop important, bien en sûr. Fait.
C'est pour ça que cette question des origines, quand on dit tu viens d'où, enfin je la relis à ce que tu dis, trouver mon territoire intérieur, mes territoires intérieurs. Mais c'est marrant, on a fait une performance. Je t'avais raconté avec des amis à Aubervilliers. Et moi, l'idée, c'est de. J'essaye de même plus être en spectacle, en fait. De dire aux gens, en fait, je ne fais pas un spectacle, en fait. J'essaye de construire une autre proposition qui soit au même endroit de là où je suis, en fait. Donc, d'enfin pouvoir dire, je suis là, et je suis configurée autrement. Et donc, du coup, je ne vais pas faire un spectacle qui ait la forme de personnes qui ne me ressemblent pas. Ça n'a pas de sens, ça ne rentre pas, en fait. Et la première, on était en ligne comme ça, et donc on ouvre la proposition, la recherche d'une pratique nouvelle, la recherche de faire spectacle autrement avec quelque chose qui soit plus adapté à qui on est, en fait, tu vois, plus ajusté. Et c'était intéressant parce que, donc on demande, on est prêt à répondre à toutes vos questions. Et la première question, c'est, vous venez d'où ? C'était la première question. Et ça, et je me suis dit, waouh, vous venez. Après, je n'ai pas prise, tu vois, je me suis dit, tiens, c'est marrant. C'est vraiment, on a quelque chose qui appelle un vous venez d'où. Ouais. Tu vois, c'est.
Et c'est fatigant.
Et c'est fatigant, c'est questionnant. Oui. Moi, je dirais, par exemple, je viens d'ici au pluriel, tu vois. Et de dire, ben voilà, en fait, il y a l'ici, puis en dessous de l'ici, y a c'est énorme, quoi. C'est comme, ça part dans tous les sens. Et je pense que je peux même renvoyer la question à la personne, dire, ben vous, c'est pareil, je crois, tu vois, si vous grattez. Nous, on est obligé, en fait, on peut pas s'empêcher, on doit. Mais si vous grattez, certainement qu'il y a un endroit qui est très épais aussi, et noué aussi, et noué. Et moi, en tout cas, c'est juste que je veux que ces nœuds, d'ailleurs, tu vois, j'ai souvent des maux de ventre et tout ça. Je sais que c'est ça. Et donc, je veux travailler à dénouer. Et je pense qu'il y a... Je remercie vraiment. Il y a plein de personnes qui s'organisent pour essayer de répondre à ces nœuds-là de manière commune. Et qui créent des espaces où on danse, où on relaie des cultures qui soulagent, en fait. Tu vois, quand t'es venue au Crump, pour moi c'est vraiment ça. Alors après, je sais plus, j'ai discuté avec je sais plus quelle militante qui me disait oui, mais moi je préfère plus des cultures qui viennent pas des États-Unis. Moi, très franchement, je m'en fous, ouais. En fait. Je veux dire, en tout cas, à mon endroit, à mon niveau, je cherche juste à ce qu'ensemble on puisse se trouver des solutions pour se dénouer, en fait. Après, je trouve que ce qui est intéressant aussi dans l'adoption, c'est de questionner entre guillemets le couple parental normatif, la maman, le papa. Je sais même pas, moi j'ai même pas envie, parce que moi c'était en plus un couple, enfin voilà, mon père était, enfin je dis mon père, c'est ultra compliqué, et du coup ça me permet aussi de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un parent, etc. C'était quelqu'un de très violent, très. Donc du coup, c'était plus ma maman qui voulait avoir des enfants. Donc tout ça aussi, ça a questionné, et tout ça en tant qu'enfant, tu portes. Enfin, en tant qu'enfant, en tant que bébé, tu portes. Avant même que tu sois arrivé dans la famille, tu portes déjà ça, quoi. Donc, t'as déjà l'appel. L'appel qui vient de « Ouais, mais moi, je veux, mais lui, il veut pas, mais ouais, mais je... » T'as déjà un truc comme ça, quoi.
Mais c'est toute l'idée préconçue, en fait, de c'est quoi faire famille. C'est un homme, une femme. Ouais. Et ça, on est sûr... Enfin, toute une pensée aussi judéo-chrétienne, enfin, religieuse, où tu... Un schéma, en fait, préconçu ou...
Ouais.
Moi, ça me désole aussi, ça, parce que je me dis, mais...
Mais c'est pour ça aussi, ouais. Pardon, je l'ai...
Mais non, non.
Mais non, mais c'est pour ça, quand tu parlais de ce terme adopté, par exemple, moi, je... Quand tu dis double peine, moi, vraiment, c'est vraiment double peine, double tristesse, parce que, au sens vraiment de la... Parce que je sens vraiment, et je trouve ça dingue, je sens vraiment que ça heurte les personnes. Non, vraiment, on m'a... souvent renvoyé à cette chose-là qui était contre nature, quoi. Et alors on me disait, mais t'as pas envie de chercher tes vrais parents ? Et tu vois, et j'étais là, je dis, mais vrais parents, je comprends pas. Mais tes vrais parents, tu vois. Et donc, c'est pour ça que voilà, rencontrer des gens comme Stéphie Misano ou Alessandra Ninja, qui en plus, je trouve que j'ai appris beaucoup à être... Elles m'ont appris aussi beaucoup sur ce que c'est qu'être mère, parce que c'est des movers dans la culture. J'ai appris beaucoup en les regardant faire avec leurs enfants. Mais en fait, ce qui est dur, c'est qu'on est à un endroit où on est contre nature et on n'est tellement pas dans la norme. Donc on se paie des doubles violences, doubles, triples, sans rien avoir demandé. Moi, j'ai l'impression que j'ai passé beaucoup de temps à me défendre. Et c'est pour ça que je pense peut-être... Enfin, non, je crois pas qu'il n'y a qu'une explication, mais le fait de faire un moment de larmes ou de prendre un moyen d'expression pour s'ancrer et dire, mais en fait, je suis là, mon jeu quand même. Parce que sinon, je trouve que c'est passer son temps à renvoyer les balles, en fait. Et moins être occupé à soi, tu vois. Et enfin, moi, c'est ce que j'ai eu la sensation à un moment donné. J'étais fatiguée de me défendre, en fait.
Oui.
De me légitimer, de me défendre, de dire, mais si, c'est possible. Je suis possible, en fait. C'est possible. Je suis possible. Il n'y a pas de... Et aussi, dit, parce qu'à un moment donné, tu doutes. Tu dis, ah, mais oui, mais est-ce que je suis possible? Et donc, là, tu rejoins les fantômes. Tu dis, mais peut-être que je ne suis qu'un fantôme. Et puis, c'est reparti. Et ça reflotte, et tout ça. Moi, ça reste encore aujourd'hui un combat que de m'ancrer. Je travaille encore à ça, à m'ancrer.
Non, en vrai, je me disais, mais jamais j'arriverai où j'en suis aujourd'hui, de conscientiser tout ça. Parce que, tu sais, c'est comme si que... C'est tellement violent, en fait,
ouais.
L'adoption, que maintenant, à 33 ans, je regarde ça, je fais, ah ouais, c'était comme ça.
Ouais.
Mais qu'à cette époque-là, à 13 ans, à 10 ans, à... Jamais je me serais dit que j'aurais la capacité, enfin le pouvoir, ouais. Le questionnement de dire ouais. Je suis pas d'accord ouais. Avec ça.
C'est impossible, c'est trop compliqué.
Et quand tu dis je n'ai en fait j'ai pas choisi, c'est vrai. Moi j'ai beaucoup entendu oui mais t'as de la chance d'être là et tout ça, mais
ça.
Tu fais mais j'ai rien demandé en fait.
Exactement.
Mais ça tu peux jamais le dire à
tu
voix
peux pas
haute.
Le dire, tu peux pas.
Puis si je me dis, mais j'ai même jamais pu faire une crise d'adolescence. J'ai jamais pu dire merde à quelqu'un. J'ai jamais pu être dans du non, dans du conflit. Parce qu'en fait, ça, c'est tellement martelé que t'as de la chance. C'est... Enfin...
Ouais, puis il y a la...
Et c'est inconscient, hein. C'est inconscient. C'est
ça, puis on en avait parlé une fois, la honte.
Bien sûr.
Cette notion de honte, qui est aussi très forte...
Mais la fois passée, ça, enfin, quand on s'est vu la dernière fois, ça m'avait beaucoup touché quand tu disais que tu faisais une enquête.
Mm-hmm. Ouais.
Tout à l'heure, en prenant ma douche, je pensais à ça. Je me disais, tiens,
ouais.
Où est-ce qu'elle en est dans son enquête ?
Oui.
Et en fait, parce que en fait, je me dis, mais bien sûr, en fait, nos vies, c'est tellement une enquête.
Exactement.
C'est tellement une enquête, quoi.
Exactement.
Et du coup, je me suis dit, mais moi aussi, je suis en train de faire une enquête,
exactement.
En fait, tu vois.
Exactement.
Et que c'est... Et ouais. Enfin, voilà.
Je voulais... Ben, écoute, moi, je la continue. Je pense que ce serait...
Et comment tu... Enfin... comment tu mènes ton enquête ?
Ben, je mène mon enquête. Je pense que je la mène surtout artistiquement, je crois. Donc, je la mène dans un premier temps en essayant de créer des espaces... Donc des espaces qui soient des espaces autres que des salles de spectacle, des espaces qui me permettent de rendre cette fiction d'enquête possible. Donc c'est-à-dire que je crée des espaces, je vais pouvoir inventer, faire vivre ces enquêtes, que ce soit sous forme de film, que ce soit sous forme de performance. Donc j'ai besoin d'avoir des espaces où tout d'un coup je me lance dans ces enquêtes fictives. Après, la deuxième chose, je trouve que c'est que ce que j'aime beaucoup, c'est aussi des espaces... où artistiquement, les propositions ne seront jamais bouclées. Parce que c'est des enquêtes qui ne seront pas bouclées. Donc, il n'y aura pas de résolution. Donc, en fait, je travaille plus que sur les problématiques sur lesquelles on est en train de se dire « Ah, tiens, il faut aller là. » Moi, je parle, par exemple, de plutôt de quelque chose qui ne sera jamais bouclé. Au lieu de dire « Oui, je travaille sur la question des coloniales, etc. Hein. » Non, en fait, je travaille sur quelque chose qui ne sera jamais bouclé et je pense que cette question-là ne sera jamais bouclée, en fait. D'envisager l'autre comme un moins et tout ça, enfin bref. Et donc ça, c'est une manière dont je travaille. C'est des enquêtes aussi qui sont... où il faut trouver plein de codes nouveaux à partir de codes qui existent déjà. Donc, par exemple, je reprends le vocabulaire d'enquête, ouvrir un dossier, avoir des témoins. Puis après, je pars dans complètement ailleurs. Donc, j'essaye de créer mon propre vocabulaire de mon enquête et puis de les ouvrir, en fait. Donc, d'accueillir des personnes qui vont aussi enquêter à mes côtés ou qui vont prendre le relais d'enquête. Donc, je suis toujours en train d'explorer cette notion d'enquête d'un point de vue artistique. En fait, ça m'aide énormément. Et j'aime beaucoup parce que, du coup, c'est se créer un personnage, un double, deux, trois, quatre, cinq, six doubles, avec tous les alliés, aussi toutes les alliances possibles, et d'enquêter, de les d'emmener ensemble dans ces souterrains-là, dans tout ce quand tu disais, voilà, moi, à 13 ans, je ne pouvais pas dire, eh ben, je vais retrouver, moi, cette petite fille de 13 ans, et dans ces non-dire-là, c'est là qu'on enquête, en fait. Par contre, je ne mets pas les mots. Je ne dis pas, bah là, je suis en train de... Mais moi, je sais que je fais ce travail-là. Puis, de temps en temps, j'écris un truc où je clarifie un peu, et puis après, on se repère. Mais en tout cas, je sais que je vais à la rencontre de cette enfance, de cette de ce moment du préadolescence, d'adolescence où il était impossible de dire, je vais à la rencontre de ça, et puis aussi dans le plus loin, et dans aussi les générations qui arrivent, et dans aussi ceux qui sont là. Donc c'est ouvrir des portes, puis aller à la rencontre de ce qui ne se dit pas ou de ce qu'on a du mal à dire. Et donc, c'est une enquête, donc ça, c'est aussi un autre axe de travail, de recherche, c'est faire parler, même le rien dire, en fait. Par exemple, à la proposition de l'enquête filmée, on ne se dit pas grand-chose, finalement. Mais il y a beaucoup de choses... on est en présence de beaucoup de choses, mais on ne se dit pas grand-chose. Et donc, je vais continuer, en fait. Je continue à faire ça. Je continue à tirer cette narration-là. Et puis après, je vais... voilà. Je travaille vraiment ça dans une proposition artistique. Et du coup, il y a des codes qui sont complètement bizarres. Et par exemple, qu'on puisse accepter cette étrangeté-là, c'est important pour moi. Et en fait, pour moi, c'est pas moi, nous, qui sommes étranges. C'est sûr et certain. Enfin, maintenant, tu vois, parce que j'avais des doutes quand même, à un moment donné, avec... Maintenant, je me dis non. En fait, c'est non. C'est... Le problème n'est pas de mon côté. Tu sais, quand...
Oui, mais quand t'es regardée tout le temps comme un peu une bête de foire...
Ah, une bête de foire, c'est exactement ça.
Et qu'est-ce que tu fais, en fait? Bah, tu te dis, mais en fait, c'est tout le monde qui me regarde. Du coup, c'est moi le problème.
Comme une bête
en fait. Et on te dira jamais que t'as un problème. Hein. Tu es un rayon de soleil, tu es tout ce que tu veux. Mais quand même, il y a ce truc-là, quoi. Mais moi, ce que je trouve qui est formidable, ce que tu fais, ce que je fais... C'est qu'en fait, on travaille à notre réparation et que ça, personne d'autre peut nous l'offrir. Et que je crois que il est impératif et important de trouver sa propre langue, en fait. Enfin, je te disais la fois passée que j'ai cette chose avec la langue qui est imposée, langue du colon, quoi. Et que du coup, tu fais un peu...
Ouais.
Mais en fait, et c'est toi encore aujourd'hui que tu me dis que je parle pas... Enfin, que tu me renvoies, en fait, que cette langue-là, aussi avec d'où tu viens, que ce n'est pas non plus ta langue.
Exactement.
Et tu fais, mais qu'en même temps, je sens que je suis habitée par d'autres choses, mais que je ne sais pas et que je ne sais plus, en fait.
Exactement.
Parce que le fait que je ne sache plus, c'est aussi l'endroit de la survie, et de dire, bah, en fait... si tu parles cette langue-là, t'es chelou, t'es bizarre. Enfin, c'est toujours cet endroit d'étrangeté aussi qu'on te renvoie.
Complètement. Moi, c'est quelque chose que c'est plus viable pour moi. Je peux même plus. Là, je suis dans mes dernières expériences de possibilité de compromis avec ça. Là, je suis en train de basculer dans quelque chose où je vais bientôt plus pouvoir. Je sature, en fait, de cette langue. Qui s'est imposé en moi, à moi, je peux plus. Sans qu'il y ait, à un moment donné, quelqu'un qui s'intéresse, qui dise, mais c'est quoi ta langue? Même dans des endroits, dans l'art, je veux dire, où on est censé s'intéresser, enfin, je veux dire, se retrouver encore seul, à être un territoire annexé. Après, moi, je pense que j'ai eu la chance de pouvoir faire parler mon île, en fait. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, je me suis dit, waouh, où sont les autres? Où sont les autres que je porte en moi, quoi? Ils sont où? Et là, ça y est, je pense que je suis au bout d'une possibilité d'accepter qu'on ne soit pas intéressé deux secondes par les autres que je porte. Ça y est, je peux plus, en fait. Qu'on soit pas intéressé par la manière dont ils peuvent se révéler sans qu'on plaque qui ils sont, tu vois. Sans qu'on dise, ah ouais, mais toi, c'est les champs de coton, tu vois, ce qu'on peut me dire, ou toi, c'est ceci, ou toi, c'est... Ah, toi, c'est la banlieue, ou ah, toi, c'est, tu vois, ces catégories... Enfin, ces raccourcis-là. Qu'on ne soit pas intéressé par nos mondes intérieurs, moi, ça y est, je ne peux plus. C'est fini. Je veux dire, parce que je trouve qu'on a quelle patience, quand même, à un moment donné. Donc, ouais.
Et qu'on a le droit d'être en colère, en fait. Parce qu'on ne nous l'a pas permis et qu'on a le droit et qu'en fait, on a le droit de faire fuck aussi, hein, en fait.
Ouais, moi, je suis quand même encore surprise des propositions. Après, je sais pas, mais je comprends tellement pas. Enfin, si, je comprends, hélas, mais... Parce qu'en fait, c'est la même chose qui se passe que dans l'adoption. On aurait besoin de toi pour jouer. Et je trouve que quand on a adopté, c'est ça. On aurait besoin de toi. En fait, le truc, c'est on a besoin de toi. Donc tu vas performer cette chose-là. Et donc quand tu regardes les trucs qu'on te demande de jouer ou de... Et moi, en fait, j'ai plus envie de performer en dehors de moi pour quelqu'un. J'ai envie de... Non. Et...
Ouais.
Mais dans l'adoption, il y a aussi cette chose que... Mais ça tourne aussi en boucle, c'est dire, mais qui a besoin de l'un à l'autre, quoi? Mm-hmm. Est-ce que c'est les parents qui ont besoin d'un enfant ou c'est l'enfant qui a besoin d'un parent?
Mm-hmm.
Et ça, pour moi, c'est la question capitale, en fait.
Mm-hmm.
Et qui... Mais... T'as dit tout à l'heure... T'as parlé du Nigeria et du Kenya.
Mm-hmm.
Est-ce que tu sens que peut-être que t'aurais un jour envie d'aller rencontrer ces deux pays?
Bah, en fait, non, parce que...
Enfin, j'en sais rien. Attends, je sais pas comment poser cette question, mais ça m'intrigue du fait que tu dises sur l'ADN, bah, y a ça. Et du coup, tu t'es dit, bah, peut-être potentiellement que je viens de là, je sais pas.
Mais... Je pense que j'ai déjà rencontré mon pays. Mes pays, je les ai déjà rencontrés, ils sont en moi. Tu vois, je les ai déjà rencontrés. C'est juste que je dois aller reconnaître encore et aller plus encore à leur rencontre.
Mm-hmm.
Aller loin, loin, loin dans tout ce que je peux de sensibilité, de ce que mon corps aura capté, tu vois.
Ouais.
Tout ce que j'aurais capté, mais je vais me perdre dans ces pays, tu vois. Je vais me perdre, parce que si j'ai personne... à aller voir, si j'ai pas un relais, après je vais y aller pour mon fils, pour le, tu vois, faire, parce qu'il m'a demandé à plusieurs reprises, et je pense que ce qui l'intéresse, c'est plutôt de faire parler l'endroit, c'est plutôt qu'il ait un endroit, quoi, qu'il sache que, tiens, à un endroit,
mais,
tu vois.
Mais c'est ça, mais en posant ma question, c'était aussi pour dire, est-ce que dans une réalité, t'as besoin aussi de voir un endroit, tu vois? C'était ça. C'était peut-être ça aussi. Mais en même temps, c'est des endroits que tu ne sais même pas. Enfin, c'est... Et puis, c'est... Oui, c'est ça. Je comprends que tu puisses dire que je n'ai pas de rapport. Enfin, même si, sur un papier, on me dit que j'ai 90% de...
Ouais, puis après, en plus, il y a toutes les autres... Je viendrai aussi. Enfin, je ne viens pas, mais en tout cas, j'ai des échantillons ADN qui sont en lien avec le Rwanda, la Centrafrique. Enfin, tu vois, il y a plein après, tu vois, c'est tout un échantillon. Et je suis plus attirée, par exemple, par la... Quand je me dis que je suis Peul, par exemple, tu vois, je me dis, ah, je sens... Enfin, il y a des choses comme ça où... Depuis ici, tu vois, je mène mon enquête sur... Ah, mais donc, c'est quoi les Peuls? C'est quoi? Qui est tout? Tu vois, et puis... J'ai des amis qui me parlent un peu, qui me disent... Mon enquête, je peux la faire que depuis ici, en fait. Après, je peux aller visiter là-bas, mais je peux la faire que depuis ici. Et j'ai l'impression que mon enquête, elle sera plus précise. Et elle a été plus précise quand j'étais en Guadeloupe, où tout d'un coup, j'ai rencontré les mêmes personnes qui étaient en... Et qui ont construit une... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est très fort, mais à partir de racines multiples... Et je m'y retrouve plus que, tu vois, si j'allais au Nigeria, où je pense que je vais y aller, tu vois, je vais essayer d'y aller, et mais où je vais me perdre, parce qu'en plus, il y a du métissage. Enfin, je veux dire, on est fait de tellement de... Et donc, le Kenya, le Nigeria, enfin...
Oui,
c'est que... tellement pas un bloc, c'est tellement énorme. Aller vers qui? Enfin, je veux dire, je sais pas combien de...
Ouais, et puis je crois aussi que... C'est répondre à la question d'où tu viens, c'est aussi dire, mais en fait... Je viens pas d'un seul endroit, en fait.
C'est ça.
Et que du coup, répondre à la question d'où tu viens, ben, je ne sais pas d'où je viens. Enfin, je veux dire, ton intérieur, d'où tu viens, c'est tellement multiple que c'est ça toute la beauté. Et que c'est aussi toute une déconstruction à faire aussi de dire je viens de tel pays.
Exactement.
Mais qui vient de...
Exactement.
Tout le monde a été exilé, tout le monde a une histoire d'exil. Et que donc, c'est aussi répondre à la question ben, d'où tu viens et toi, d'où tu viens aussi. Enfin,
ouais.
Et que... Et ça ne s'arrête pas à une couleur de peau, et ça ne s'arrête pas, et que moi aussi, je crois que le retour au Burundi, vraiment d'une manière concrète, moi, ça me permet d'avancer avec
Bien
une
sûr.
Terre, mais je sais que je suis remplie d'une multitude aussi d'appartenances.
Mais il faut aller toucher cette terre quand même.
J'ai besoin.
Il faut aller toucher cette
terre
quand même.
Pour, tu vois, je parlais comme ça d'un truc où j'ai l'impression d'être vraiment un disque rayé.
Ah.
Et que là, le disque, il est vraiment rayé. Et ouais, j'ai besoin de faire un reset, tu vois.
Ouais, c'est...
Et puis surtout, ce retour est pour moi le premier jour du reste de ma vie. Vraiment d'une manière concrète qui est ben, les 26 ans de mémoire traumatique. Enfin, et même plus. 33 ans. Ben, en fait, là, j'ai besoin d'un départ. Et que donc... C'est physique.
Bien
il y a
sûr.
Quelque chose de physique.
Non,
et
mais
puis...
ça, je comprends. Je comprends, mais je comprends totalement. Et quand je dis
Mais ça, ça n'annule pas tous les autres mondes.
Bien sûr.
C'est...
Mais je comprends, en fait, je comprends totalement. Moi aussi, si tu veux, j'ai envie d'aller toucher mes terres. Et je suis en manque. Je vis en manque. Je suis en manque tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, je suis en manque des miennes et des miens. Tous les jours. Et ça, je le sais. Tous les jours. Je sais qu'il me manque quelque chose. Les jours. Ça, c'est évident.
C'est bien que tu le dises et que tu le répètes et que tu l'exprimes.
Et ça, je le sais, tu vois. Ça, il n'y a aucun problème, je le sais. Et je sais que ça ne me sera jamais restitué. La restitution, je crois qu'elle est impossible. Mais c'est un manque de tous les jours. Et ce qu'on essaye de faire disparaître avec l'adoption, en fait, il y a un truc qui ne disparaît pas, enfin, en tout cas pour moi, qui est là, mais... tellement fort, tellement fort. Et même qu'on soit petit, qu'on soit plus grand, c'est... Tout a été enregistré, tout est emmagasiné. Enfin, je veux dire, on est...
Ah ouais.
Moi, j'ai l'impression que ma peau, elle a tout bu, quoi. Mais même avant même d'être dans le ventre de la personne qui m'a portée, ou que j'ai portée, je sais pas comment ça s'est passé. Avant même, il y a toutes ces histoires-là, tout ce qu'il y a à l'avant, tout ça, je sais que c'est là. Et tout ça, je sais que je suis en manque de ça, mais un truc de... Et je pense que c'est ça qui est très compliqué et qui fait qu'on peut vraiment être en très grande souffrance. Parce qu'en plus, ce manque, il n'est pas reconnu. Mais je trouve que c'est vraiment un manque, comme un manque... un manque qui te rend... comme une addiction. Enfin, tu vois, quelque chose que tu... Ce qui est dur, en plus, c'est que c'est un manque que tu as, mais tu ne sais même pas comment tu peux le... Tu n'as pas accès à la possibilité d'y remédier, quoi. Donc, c'est ça qui est compliqué. Tu vois ? Et c'est pour ça que je sais que si je vais dans l'immensité du Nigeria ou du Kenya, je sais que ce manque-là, que ces terres, que ces miennes, miens, ne me seront pas restituées, jamais. Que ces discussions que j'ai mémorisées avant même que je sois née, de toutes ces personnes, toutes ces histoires qui étaient autour et des histoires autour de ces histoires, je sais que jamais. Et donc, en fait, ça devient un travail de deuil. Et donc, le manque devient le deuil. Et tout ça... Et donc, comment faire pour que ça ne soit pas un poids et que ce soit vivable ? Il faut fictionnaliser. Moi, c'est pour ça que je fais de la fiction, en fait. Parce qu'il faut fiction. Il faut partir, il faut trouver une porte. Et c'est pour ça que tu vois que, oui, il y a quelque chose qui me manque dans un truc qui est mono, quoi.
Ouais.
Une monoculture, quoi. Parce que tout d'un coup, je me dis, ah, déjà qu'il n'y a pas les miennes, miens. Et en plus... Là, non. Enfin, ouais, s'il y a un voyage, il faut aussi que je le prépare, il faut que je prépare l'accueil. Parce que si c'est pour retomber sur un non-accueil, sur un sentiment d'étrangeté, d'étrange, ça va être...
Ouais.
En Guadeloupe, j'ai été accueillie. C'était hallucinant. Il y avait vraiment... Alors après, peut-être que je me l'étais tellement... Ça a tellement été quelque chose de... Comment on dit ça ? Je l'ai tellement dans mes lectures, dans mon approche...
Tu l'attendais ?
Je l'attendais, je l'ai préparé comme ça. Donc ouais. Du coup, tu vois, je me suis mis à cet endroit-là aussi. Ouais. Mais je ne sais, moi, pour le moment, je ne sais pas où aller en termes de retour. Mais il va y avoir un retour, mais je ne sais pas où aller encore.
Mais le retour aussi, c'est... C'est décider de regarder ça en face aussi. Enfin, je veux dire, moi, c'est aussi tout symbole de ce processus-là de réparation qui est en train de se faire. Et que donc, le retour, c'est le retour sur son histoire aussi. Mmh. Et que ça, tu le fais. Enfin, il y a une multitude aussi de retours. Enfin,
ouais,
et,
bien sûr,
et d'aller, de retour. Mmh. Et que ces retours, une rétrospective sur... regarder ça et dire ça. Enfin voilà, c'est ça aussi le retour, et tu le fais.
Ah oui, mais de toute façon, pour le moment, autant à un moment donné, j'étais fort inquiétée, enfin ça m'inquiétait beaucoup. Maintenant, je suis beaucoup plus apaisée par rapport à ça. Et surtout que j'ai une vision kaléidoscopique, c'est comme ça qu'on dit, kaléidoscopique, de ces terres. Tu vois, donc c'est-à-dire que je vois double, triple. Donc j'ai pas. Avant, je me mettais en tête un endroit. Maintenant, ça devient très démultiplié. Puis
bien
en
sûr.
Plus, là-dedans, viennent se mettre des endroits fictionnels.
C'est génial. Il faut recréer ta carte du monde.
C'est ça.
Tu vois, c'est parce que c'est horrible de regarder une carte du monde. Moi, franchement, c'est un peu avant le processus de mon histoire, ma quête identitaire, que... que j'ai vu où ça se trouvait le Burundi, quoi. Mais aussi, il faut redessiner sa carte, il faut redessiner sa carte du monde. Et ta carte du monde, elle est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large et beaucoup plus, tu vois, t'as une carte du monde à l'intérieur de toi.
Bien sûr. Et après, c'est trouver aussi les personnes. Tu vois, parce que pour moi, c'est la... Enfin, en tout cas, dans mon histoire, dans ma situation, c'était pas juste l'endroit, c'était le manque des personnes. C'est avant même la retrouvaille de la terre, c'était retrouver les personnes disparues. Et c'est plus important ça, pour moi, que le retour à... Et c'est ça qui est plus problématique, c'est la disparition de tout un environnement. Et donc, c'est où êtes-vous si on met de côté la question de ce que tu arrives à te recréer comme un environnement pour survivre, parce que c'est vraiment, je trouve qu'on est vraiment dans des questions de survie, en fait.
Ah, mais...
On est dans des questions
moi,
de
c'est
survie.
Mon mot, hein.
De...
Ah, oui. Vivre, c'est...
Et c'est marrant parce qu'on est, tu vois, en pleine forme, mais en état de survie.
Ouais.
Total. Et du coup, pour moi, c'est... la disparition de tout un monde, ça, je trouve ça violent, en fait. Que tout un monde... Mais c'est aussi, c'est pas que les personnes qui sont en présence autour de ta naissance, c'est toutes celles qui sont à côté, devant, derrière, tout ça, c'est englouti. Et c'est juste ça que je trouve qui est pas, ça n'est pas possible en fait. On peut pas infliger ça à quelqu'un. C'est impossible, je trouve que c'est pas possible. C'est pas possible. Et je trouve que c'est normal qu'on mette autant de temps à le... parce que c'est trop violent, tu vois, je pense qu'on... à le réaliser, à pas réaliser tout de suite, c'est important parce que c'est tellement énorme. La pilule qu'on essaie de faire passer, c'est tellement énorme. On fait disparaître ton monde, quoi, tes mondes. Puis on dit non, mais t'inquiète, il y en a un autre.
Mais si, quand même.
C'est pas mes paysages. Moi, je sais que c'est pas mes paysages. Je sais. Je sais que c'est d'autres paysages. C'est pour ça que la fiction, ça m'aide. À dire, ah non, mais moi, mon paysage, c'est pas ça. Donc les gens font, ah mais non, mais ça, c'est... Et j'adore quand on me dit, c'est pas comme ça qu'on fait. Je dis, ah ouais, mais je sais, justement. Ou c'est pas comme ça... Ouais, mais justement, c'est bien. C'est là que je suis, en fait.
Ouais. Hmm. Et du coup, ça prend du temps à se recréer un monde.
Ouais.
Enfin, recréer, j'en sais pas, mais en tout cas... prendre conscience qu'on vient d'un autre monde, en fait.
Ouais.
Et...
Ouais. Mais tu vois, on évolue dans des cultures qui... sont tellement monoculturelles où il y a... T'as l'impression que les autres n'existent pas, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un truc où c'est... où les autres n'existent qu'en en étranger, étrangeté, enfin... Mm-hmm.
Mais d'où pour moi la nécessité vraiment de me dire, de rencontrer d'autres personnes qui partagent un sentiment qui est inexplicable pour des personnes qui n'ont pas vécu ce qu'on a vécu.
Bien sûr,
Et que ça, je me suis permis ça. Et ça, c'est le meilleur cadeau que j'ai pu m'offrir.
Bien sûr, parce qu'effectivement, de l'extérieur, c'est inexplicable.
C'est inexplicable.
Et c'est ça qui est très compliqué. Alors qu'on est embarqué dans un processus que je trouve ultra positif d'essayer de... conscientiser des choses, des inégalités, des discriminations systémiques. Il y a un travail d'explication à faire, en fait.
Oui, et parfois aussi, je trouve que il n'y a pas d'explication, en fait. Parce que ce qu'on ressent, c'est ça ne s'explique pas. Et que expliquer, c'est être dans la justification, mais ne pas avoir les mots, parce que les mots ne sont pas assez... Donc c'est compliqué, quoi.
Ouais.
C'est pour ça, je crois, qu'il faut utiliser d'autres outils.
Ouais,
d'autres outils de... Parce que la parole, elle est limitée, en fait.
Ouais,
complètement. Du coup, du coup, tu fais, je serai toujours frustrée.
Bien sûr.
Parce que je ne serai jamais, en fait, exprimée. Et du coup, je ne vais pas le faire de cette manière-là.
Non.
D'aussi dire la langue, elle est limitée, quoi.
Exactement. Ah oui, mais complètement. Ouais. Oui. Heureusement que nous avons nos langues étrangères.
Et nos corps aussi. Enfin,
bien sûr.
Qui est une langue...
Bien sûr.
Ouais. Merci pour ce partage. Merci.
Merci.